minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux, il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio.
Cube Radio. Mercredi 19 janvier, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien ce matin. Un matin plutôt froid où on attend de la neige aujourd'hui. Encore un peu, accumulation de 2 à 4 cm pour Montréal. Moins 9 le maximum, mais en ce moment, c'est moins 15, moins 23 le ressenti avec le vent. Et on s'enligne pour quelques jours de froid, notamment jeudi, vendredi et samedi avec les températures. Le vendredi vers moins 19. Samedi, moins 17, et ce froid-là qui va s'installer et rester encore quelques jours. On salue donc les déneigeurs ce matin et cette nuit qui ont travaillé toute la nuit pour enlever la neige dans les rues de Montréal. Maude, bonjour.
Salut.
Canadien qui a gagné hier.
Pardon?
Ouais, ouais.
Moi, j'ai comme semi-cru.
5-3?
Ce matin.
Pour vrai? Je dis ça comme ça, mais... Depuis que Kent Hughes est arrivé, a été nommé directeur général du Canadien.
Le
Canadien
gagne. Il a eu le temps d'en faire des affaires, lui.
Le Canadien gagne. En tout cas,
je dis ça comme ça. Il y a Chantal aussi qui est arrivé, tu sais.
Oui, mais il y a eu des défaites depuis qu'il est arrivé. Là, on repart à neuf. Le nouveau directeur général.
Non.
Nouveau directeur général, c'est comme ça que ça fonctionne. On va en parler avec Jean-François un peu plus tard à l'émission. On va aussi revenir sur ce nouveau guide pour les soins. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont été surpris par l'ampleur. On parle maintenant d'une possibilité même de réduire la qualité de soins. On n'est pas encore rendu là, mais ça se pourrait que ça arrive. On veut renvoyer les patients plus tôt à la maison, notamment hier, la docteure O'Patterney, là, qui s'occupe du délestage, parlait de l'hôpital juif qui a envoyé un patient COVID avec de l'oxygène chez lui pour le traitement. Comment on peut traiter les patients différemment? Est-ce qu'on est obligé de les garder aussi longtemps à l'hôpital? Comment on va gérer ce risque zéro-là? On parle nécessairement de gestion de COVID, mais aussi de gestion d'isolement. Est-ce qu'il faut traiter les patients qui attrapent la COVID sans symptômes par la suite, même s'ils sont vaccinés? De la même façon que ceux qui sont hospitalisés à cause de la COVID. Quoi qu'il en soit, la fameuse lumière au bout du tunnel qu'on nous annonçait la semaine dernière, si on la voit, elle est encore pas mal loin avec 12 000 professionnels de la santé qui sont toujours absents, toujours dans le dossier de la COVID. Les N95, finalement, du côté du Centre des services scolaires de Montréal, on va finalement le permettre. Dans le Journal de Montréal, on parle du prix du gaz aussi qui pourrait atteindre 1,80 $ le litre d'ici la Saint-Jean, donc d'ici l'été. On parle de ce monopole, de ceux qui vendent le prix, qui vendent le gaz. Ils ont une marge importante, les stations-service, selon CAA Québec. Et aujourd'hui, journée quand même importante en termes de points de presse. Justin Trudeau en fait un, Joe Biden un an depuis son investiture, le directeur général du Canadien, Kent Hughes aussi. Et on attend avec impatience le rapport de la protectrice du citoyen. Bon, on a parlé hier de cette entrée par effraction.
Oui, c'est quelque chose.
À Laval, là, on apprend que c'était des clowns, des gens déguisés en clowns qui sont allés faire cette entrée par infraction. Qu'est-ce qui s'est passé, là?
Oui, c'est ça. On a un peu plus de détails aujourd'hui sur le pourquoi et le comment. Ce serait un conflit au sujet d'une transaction de crypto-monnaie de 300 000 $ qui serait à l'origine de l'introduction par infraction et de l'enlèvement aussi d'une femme enceinte qui a eu lieu lundi soir à Laval. Et détail qu'on apprend aussi ce matin, tu parlais de clowns, ben, c'est que les quatre individus qui ont fait irruption dans la résidence portait des masques de clown. Il était environ 20 heures à ce moment-là. Il y a un homme de 30 ans qui était dans la résidence qui a été sévèrement tabassé, mais sa vie n'est pas en danger. Puis après avoir battu l'homme, ben c'est là que les ravisseurs ont saisi la femme de 26 ans de force et l'ont entraînée contre son gré dans leur véhicule. On se rappelle, elle avait réussi à composer le 911 avant de se faire agripper. Donc, les policiers qui ont réussi à localiser rapidement le véhicule à quelques kilomètres au nord, elle a dû être transportée, la dame, à l'hôpital pour traiter un choc nerveux. Il y a deux hommes de 23 et 35 ans qui ont été arrêtés. L'un d'eux est membre du gang de rue Chomédé 45 et il y a de nombreux antécédents judiciaires là, à son dossier.
Et là, on s'approche de plus en plus des Jeux olympiques de Pékin et de plus en plus on réalise à quel point ça va être compliqué, notamment à cause de la COVID. Là, on a déjà parlé de la surveillance, des téléphones, le fait que le comité olympique recommande aux athlètes de laisser leur téléphone personnel à la maison. Mais là, on apprend aussi que les tests de COVID vont être un peu compliqués.
Ouais, c'est un article, en fait, une chronique ce matin de Martin Leclerc qui s'intitule « Ça va mal à Pékin, les tests bric-à-brac du gouvernement chinois ». Ça donne vraiment le ton et c'est assez fascinant à lire ce matin. Ça donne un aperçu à quel point ça va être difficile pour les athlètes d'accéder aux Jeux olympiques. Et tout ça à cause des tests. Donc, Martin Leclerc parle notamment de ce qui arrive présentement à deux employés de Radio-Canada, dont sa femme, qui sont déjà en Chine et pour qui c'est compliqué à cause des exigences des tests pour détecter la COVID-19. Donc, toutes les deux, donc ces deux employés-là, ont été doublement vaccinés. Elles ont eu aussi la COVID. Donc, à l'élan, se sentant très en sécurité. Et qui plus est, elles avaient fait 5 tests négatifs ici au Canada par un bon laboratoire reconnu. Des tests qui sont pas reconnus à l'arrivée en Chine. La Chine veut faire ses propres tests. Donc, malgré qu'ils avaient exigé là, que chacune d'entre elles produise 5 tests négatifs avant de s'envoler pour Pékin. Donc, à leur arrivée, elles ont été testées à l'aéroport de Pékin, ont appris en fait que les tests étaient positifs. Donc, elles ont été conduites dans un ancien hôtel où les conditions sont moyennes.
D'un vieux tout inclus oui. / prison.
Oui, à peu près. Il faut produire 2 tests négatifs à 24 heures d'intervalle pour pouvoir sortir de cet hôtel-là, sortir de l'isolement. Et dans l'article, on explique que ce qui pose problème, c'est la sensibilité des tests, ce qu'on appelle le seuil cycle. Mm. Donc, plus le seuil cycle est élevé, moins la personne testée elle est contagieuse. Par exemple, ici au Canada, le seuil cycle déterminant qu'une personne est plus contagieuse, ça s'élève à 35. En Chine, c'est 40. Vous allez me dire 5, c'est pas gros, mais ça fait vraiment une énorme différence parce que ça devient une loterie de passer ton test. Si on vous déclare positif, ben c'est que peut-être on a capté des débris de virus qui sont morts à ce moment-là, mais le test est tellement élevé au niveau de la sensibilité qu'on va le capter quand même, puis ça pourrait donner de faux positifs. La première directrice de sport et production olympique de Radio-Canada a annoncé aux employés qui ont récemment été frappés par la COVID-19 qui couvrirait pas les Jeux de Pékin, et ce qui laisse aussi planer un doute à ce moment-là, c'est qu'il y a plusieurs athlètes qui ont eu la COVID-19 dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Parfois, des équipes complètes, on pense à l'équipe de bobsleigh, de patinage de vitesse sur courte piste aussi, qui ont eu la COVID-19. Il y en a eu dans l'équipe féminine de hockey. Donc, comment ça va se passer pour eux? Est-ce que tous ces athlètes-là qui ont travaillé hyper fort, on s'entend, pour se rendre aux Jeux olympiques, vont se faire refouler rendu en Chine
ou vont regarder leur compétition à la télé dans un petit hôtel où ils n'ont pas droit de sortir puis de voir personne.
Puis ça va être à l'équipe Canada à ce moment-là de prendre une décision par rapport à ça. Fait que tu sais, c'est comme plein de choses qui s'accumulent par rapport à, j'oserais dire, tout ce qu'on savait déjà sur la Chine qui allait compliquer les choses pour les Jeux olympiques.
Cette incertitude-là. Et là, triste nouvelle, la doyenne du Canada qui est morte.
Oui, Cécile Edith Klein, qui avait quand même 114 ans. C'est pas rien. J'oserais dire, c'est un peu correct rendu là. Elle est décédée dans un CHSLD à Côte-Saint-Luc. Elle est née en 1907, donc elle a traversé les deux guerres mondiales. Elle a vécu 2 pandémies, donc celle de COVID-19 présentement, puis en 1918 aussi, celle de la grippe espagnole. On dit qu'elle a toujours marché simplement avec une canne jusqu'à ses 109 ans, qu'elle pouvait toujours lire un journal sans lunettes à 111 ans. Elle était même rendue au iPad. Puis on la décrit comme une femme très positive, que ce serait peut-être ça le secret de sa longévité. Puis qu'elle a été une très, très grande voyageuse. Là, il y a plusieurs autres détails dans l'article du journal ce matin. C'est une lecture, j'oserais dire, feel good, malgré que cette dame-là est décédée. Ouais. Là, mais tu sais, quand même, 114 ans, t'en as vécu des affaires.
Eh hey boy, 114, bon.
On dirait, je ne sais pas si j'ai...
Elle a quasiment vu toutes les coupes cette année du Canadien.
Elle n'aura pas vu d'autres. C'est un peu pas.
Bonne journée.
Bye.